Bonjour à tous. Je rebondis sur ce que vient de dire Rachel. Là. Parce que moi, je me disais, si les gens, ils se sont dit, les voisins, s'ils nous entendent, on a raté quelque chose, là. Hein, on n'était pas au courant. Hein. En ce moment, partout, on entend des applaudissements, des cris de joie. Bon, hein, vous avez chanté, j'ai entendu, hein, tous. Je ne vais être nulle part ailleurs. J'ai entendu. Hein. Bon, il y en a, ils ont choisi d'être là-bas à Moscou, ils sont dans les stades, ils font, bon, chacun choisit. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, on a choisi la meilleure place.
Amen.
Amen. Eh oui. Hein, bon. Hein, et c'est vrai que. Bon. Je vais vous donner un message, j'ai déjà donné, mais je crois que les circonstances me mettent à cœur de vous le partager. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit va nous rappeler. On va déjà demander quand même que le Saint-Esprit nous aide. Vraiment, c'est lui qui va parler à nos cœurs, c'est lui qui veut rendre sa parole vivante. Et qui veut nourrir notre foi. Seigneur, nous voulons encore te demander bien d'être celui qui agit au fond de nos cœurs. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Nous mettons ce temps à part, Seigneur, loin des bruits du monde. Que ta parole bien puisse résonner et agir au fond de nos cœurs. Seigneur, nous savons beaucoup de choses, mais il est bon de les entendre, il est bon de le réentendre, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit puisse nous façonner, Seigneur, c'est ce qu'on veut. Merci encore, Seigneur, pour ce moment de partage autour de ta parole. Te bénissons au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui sont en vacances, hein, c'est vrai. Mais pensez aux frères et sœurs. Hein. On n'oublie pas, on est une équipe aussi, nous. Hein. Bon, je ne vais pas me lancer là, dans cette image, hein, puisqu'on parle trop d'équipe déjà. Mais en revanche, je voudrais démarrer par le fait qu'effectivement, on est dans un monde qui va mal, mais qui, malgré tout, veut manifester sa joie. Hein. En ce moment, peut-être un peu trop. Pour certains, c'est vrai. Et hier, donc c'était le 14 juillet, on a eu droit au défilé, on a eu droit, il y avait le concert, il y avait feu d'artifice, enfin bon. C'est une façon dont le monde veut effectivement manifester sa joie. C'est vrai. Nous, quand on est dans le Poitou, on voit 7 feux d'artifice en même temps, oui, de là où on est. Bon. Feu d'artifice, c'est vrai, ça pétille, il y en a plein la vue, il y en a plein les oreilles, on a presque tous ceux qui sont, on voudrait que ça explose dans le cœur de chacun. Et hier, si vous avez vu celui de la Tour Eiffel, je dis chapeau. Hein. Bon. Hein, moi, je dis bravo les artistes, bravo les techniciens. Dommage que ce ne soit pas la gloire de Dieu. Enfin, ça l'est quand même, indirectement, ça l'est. Hein. Mais ce n'est pas fait pour ça, malheureusement. Bon. Donc, effectivement, puis cet après-midi, bon, c'est vrai qu'il y, a, hein, il y aura des fan zones, il y aura des milliers de personnes. On va regarder hein, la fameuse équipe de France, voir si elle va gagner ou pas. Bon. Les gens, en fait, vous avez eu tout pendant des semaines. Hein. C'est des manifestations un peu, des fois exagérées, mais dans les tenues, dans le bon. Enfin, le monde, quand il est heureux, manifeste sa joie. Et moi, ce qui m'étonne, justement, c'est que des gens hein, qui ne croient pas, qui n'ont pas notre foi, hein, pour des valeurs qui n'en valent pas la peine, sont capables de faire de telles manifestations de joie, sont capables, certains, de dépenser de l'argent, d'aller là-bas en Russie, hein, ou d'autres attendre des heures en plein soleil, et tout ça pour une raison qui leur tient à cœur. Ouais, d'accord. Bon. Donc moi je me dis, nous on a été gagnés par Christ, par l'amour de Christ. Nous on a vraiment cette liberté, on a cette assurance du salut, on a cette couronne incorruptible, on a cette coupe du salut assurée. C'est mieux qu'une coupe du monde, c'est mieux qu'une médaille olympique. On est sûr, alors nous est-ce qu'on sait manifester notre joie? Il faut se poser la question quand même. Hein, est-ce que mon cœur est dans la joie? Et je dirais, quelle en est la source et quelle est la façon dont je la manifeste? Vous savez que Paul, alors qu'il est en prison, il va encourager les chrétiens en Philippiens 4, il va dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et je le répète, il dit « Réjouissez-vous ». Bon, ce matin, dans ce temps de louange, c'est ce qu'on a fait, on s'est réjouis, effectivement, hein, de connaître Jésus, de connaître Dieu, de connaître justement donc, ce salut. Ouais. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas besoin d'en rajouter dans les décibels. Hein, vous savez. Comme disent à juste raison les voisins, Dieu n'est pas sourd, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Bon. Mais quelle est la qualité de notre amour? Voilà ce qui est important. D'accord? Donc, le titre du message, c'est « Est-ce que je suis un chrétien enthousiaste ?» Il ne devrait pas y avoir plus enthousiaste que les chrétiens. Vous savez que le mot « enthousiaste » vient du grec « entheos », « en Dieu ». Ça veut dire « Est-ce que donc je suis en Dieu et est-ce que Dieu est en moi ?» Important, c'est ça. C'est pas un mot que vous allez trouver dans la Bible. Vous pouvez prendre votre concordance, le mot enthousiasme n'existe pas. Mais en revanche, il y a beaucoup de références à des attitudes qui sont ni plus ni moins que de l'enthousiasme. Je vous cite par exemple, non, vous l'avez là, hein, qui est affiché, le plus grand commandement, Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous voyez, ton cœur, ton âme, on l'a chanté ce matin, quoi. De toute ton âme, ton cœur, ta force. Ensuite, vous avez par exemple le psaume 100, verset 2, servez l'Éternel avec joie. 1 Timothée 4, 15, applique-toi, sois tout entier à cette tâche, tout entier. 2 Corinthiens 11, 29, que qui vient tomber, que je ne brûle. Bon, un feu intérieur, c'est Paul qui dit ça. Il avait le feu, la passion qui brûlait son cœur. Et Colossiens 2, 23, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme. Vous voyez, on pourrait multiplier les citations pour définir une attitude de cœur qui se donne entièrement à Dieu, d'accord. Esprit à mes corps, et qui manifeste une passion qui brûle à l'intérieur. 1 Corinthiens 3, 16 dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si la vie de l'Esprit habite en nous, on a participé à la Sainte Cène, pour rappeler que la vie, Dieu, Jésus a donné sa vie pour qu'elle soit en nous. Si la vie de Jésus est en nous, ça doit faire une différence. Et je dirais l'enthousiasme, c'est ça. C'est cette différence qu'il doit y avoir dans le cœur du chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus précisément derrière ce mot? Il y a toute une attitude, effectivement, j'énumère quelques qualités. La joie, la spontanéité, du dynamisme, de la générosité, de la passion, de l'élan, du zèle, de la fierté, de l'assurance, de l'audace. La liste, elle serait très longue. Et en fait, je dirais, c'est ni plus ni moins que l'attitude, et là c'est pour ça que je prends la référence à l'enfant, de quelqu'un qui fait confiance à son Père Céleste, un Père Tout-Puissant qui nous aime. Dieu nous aime, Dieu peut tout. Tout est dit, en deux mots. Et considérez un peu l'enfant qui est avec ses parents. D'abord, l'enfant, il fait confiance à ses parents. Vous avez déjà vu, bon, un papa joue avec son enfant, par exemple, il va le prendre, hein, il lui fait faire l'avion. L'enfant, il écarte les bras. Jamais l'enfant, il dit, il est capable de me lâcher. Hein, j'ai même l'aplatir par terre. Non, l'enfant, il fait confiance. Hein, de toutes les pirouettes et tout que le papa peut faire, ou la maman, avec l'enfant, l'enfant fait confiance. Ensuite, il y a l'enfant, il est fier des parents. Vous savez, c'est sûr que il n'y a pas plus fort, plus beau, plus intelligent que le papa, et il n'y a pas plus joli et plus aimante que la maman, pour les enfants, c'est sûr. Et surtout, l'enfant, je dirais, il sait se réjouir et s'enthousiasmer. Les parents proposent, allez, ce soir, on va faire... Ouais, youpi, bon. Qu'est-ce qui plaît aux enfants, c'est d'être avec les parents. La compagnie des parents, après, qu'importe, mais pouvoir parler, pouvoir échanger, pouvoir poser des questions, voilà ce qui importe. Et je dirais que cette relation qui unit l'enfant avec les parents, eh bien, ça définit un cœur enthousiaste, en fait. Parce qu'en fait, Dieu nous demande, effectivement, d'être comme des enfants. Vous avez cette référence, c'est Jésus qui dit, en Matthieu 18, 3, « Si vous vous convertissez et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est vrai que notre foi d'enfant, elle doit grandir, c'est vrai. On doit laisser tomber tout ce qui est les défauts de l'enfant. Mais les qualités de l'enfant... Il faut les garder. Et l'enthousiasme, c'est une qualité, précisément, qu'il nous faut conserver. Mais attention, l'enthousiasme, c'est autre chose que l'optimisme. A priori, on a l'impression que les deux mots qui se ressemblent. Mais si vous prenez les contraires, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Parce que le contraire de l'optimisme, c'est le pessimisme. Le contraire de l'enthousiasme, je veux dire, c'est une certaine apathie, une certaine indifférence, une certaine nonchalance. Regardez, l'optimiste, en général, l'optimiste, bon, c'est un doux rêveur, disons qu'il voit les choses toujours du bon côté, mais le problème, c'est qu'en fait, il va face aux difficultés, mais il se bouge pas. Il espère que ça va s'arranger tout seul, finalement, il s'implique pas. Bon, il voit un nuage à l'horizon, bon, il va même pas prendre son parapluie, il se dit, bon, il va pas pleuvoir. Quoi. L'optimiste, il est un petit peu à côté de la réalité, mais il voit tout, tout va bien. Il ne se laisse pas atteindre du tout par les problèmes. Quelqu'un d'enthousiaste, il est beaucoup plus réaliste. Il voit où ça ne va pas, mais il se remonte les manches et dit, voilà, je vais faire en sorte que ça va mieux. Et il va s'impliquer, et il sera heureux parce qu'effectivement, il y aura un résultat. Mais ça parce qu'il est réaliste, mais enthousiaste, en fait. Jésus a dit à celui qui vaincra, il rappelle ça aux églises, pour vaincre, ça suppose qu'on se bat, ça suppose qu'on fait des efforts. Et Jésus dira, si ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Violent, ça veut dire qu'on se fait violent, qu'on fait des efforts. On n'attend pas que ça arrive tout seul. Il y a un industriel qui déclarait, entre deux candidats pareillement doués, je choisis le plus enthousiaste et je sais qu'il va aller plus loin et sera plus efficace, en fait. Parce qu'il savait qu'effectivement, s'il y a cet enthousiasme, Hein, ça va se voir. Et vous connaissez tous le célèbre évangéliste Moody. Moody ne disait rien d'autre. Moody a écrit « Moi, je préfère l'enthousiasme, même sans connaissance, à un grand savoir dénué de chaleur. Je connais des hommes pétris de connaissance qui n'ont pas la moindre étincelle dans l'âme. Je ne peux pas comprendre un chrétien qui réalise sa position en Christ sans que son cœur ne brûle d'un bout de l'année à l'autre. » Si vous vous lancez dans le commerce et n'y mettez pas votre cœur, attendez-vous un échec. Eh bien, dans l'œuvre de Dieu, il faut des hommes livrés, corps et âme, à leur Dieu. Voilà ce que disait Moody. Et je peux vous dire qu'il savait de quoi il parlait, parce qu'il a commencé jeune, évangélisé, il est mort en 40 ans, il est mort 60 et quelques années. En 40 ans, il a converti plus d'un million de personnes. Hein, il avait le feu en lui. Bon. Donc, posons-nous la question. Est-ce que j'ai dans le cœur ce feu, finalement, qui brûle d'un bout à l'autre de l'année, comme disait Maudit, là. Est-ce que je suis livré corps et âme à mon Dieu? Et est-ce que, surtout, j'ai réalisé quelle est ma position en Christ? Parce que le secret, la source de l'enthousiasme, elle est dans la prise de conscience de qui je suis en Jésus. Alors, quelle est ma position en Christ? Brièvement, je vous rappelle, notre nouvelle identité, notre carte d'identité de chrétien, là. Depuis la nouvelle naissance, on est fils de Dieu, frère de Jésus, héritier des promesses, bien sûr, et je suis assis en Christ de toute domination, appelé à régner. D'accord. Bon. Et si j'ai une destinée céleste. Destinée céleste, ça rappelle le ciel, le bleu, ça. D'accord. Bon. Appelé à régner, la royauté et la pureté, le blanc. Bon. Je suis libre, libéré de tout péché. Péché soit effacé par le sang de Jésus, c'est le rouge. On a déjà les bleus, blancs, rouges, on l'a, nous, en tant que chrétiens, on l'a. Hein. Bon. Bon. Et ensuite, liberté. Hein, égalité, fraternité en Jésus. On l'a aussi. Bon. Et on fait surtout, je dirais, la fierté de notre Père Céleste. Et aussi, donc, on doit se... Et ça, quelque part, je dirais, donc, c'est comme des raisons. On peut en ajouter beaucoup, mais je ne sais pas, ça ne vous donne pas envie. Réaliser, c'est ce que chacun d'entre nous, nous sommes. On aurait quand même envie de bondir de joie, je dirais, de sauter de joie, mieux que certains supporters. Et donc, en fait, tout ce qui peut susciter l'enthousiasme dans le cœur de quelqu'un, on l'a, et encore plus, en tant que chrétien. Donc, il en résulte, je dirais que un chrétien, ça devrait étonner par son comportement, ça devrait détonner, avec un N, hein, on change de ton, on n'est pas dans le même ton, et détonner, parce qu'en fait, on fait du bruit. Eh oui, quelque part. On devrait donc, par nature, on devrait bousculer un petit peu notre environnement parce qu'on est entombé dans un train-train, vous savez, le train-train, la monotonie. Nous, on est porteurs d'une bonne nouvelle, c'est sûr. Et cette bonne nouvelle, eh bien, c'est une parole surtout d'espérance qui est capable de ranimer les esprits abattus, de relever ceux qui sont tombés et d'encourager ceux qui sont déçus. C'est ça, la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle devrait nous donner du zèle et des ailes, bien sûr. Hein? Est-ce qu'il n'est pas fait mention d'Éphésiens 6 dans l'énumération des armes spirituelles après le casque du salut? Paul il fait sa revue 14 juillet là. Les armements c'est plus rapide là. Vous voyez, il y a pas tous les troupes d'infanterie, il y a pas les chars, il y a pas les avions. Mais bon, il y a le casque du salut, le bouclier de la foi, etc. Et il parle des chaussures du zèle que donne l'Évangile. Est-ce qu'on a ce zèle qui devrait nous donner des ailes? On doit faire partie de l'aviation aussi, spirituelle, bien sûr. Et pour porter la bonne nouvelle, aux quatre coins du monde, Paul va exhorter les Corinthiens, montrez-vous fermes, inébranlables, soyez toujours zélés pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Ça, il suffit de prendre l'exemple des premiers chrétiens, voir comment ils se comportaient. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, jour de la Pentecôte, ils sont allés à travers Jérusalem, et ça crée beaucoup de remous. Quand on lit le livre des Actes, il crée des remous. Un jour, Pierre et Jean sont arrêtés, parce qu'ils sont en train de parler de Jésus, on les met en prison, et là, on les fait comparaître, et tout de suite, on les reconnaît, il les dit en acte 4.13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. D'accord. Les responsables, les membres du Sanhédrin, ils prennent peur de l'influence qu'ils sont en train d'avoir auprès du peuple, et ils leur interdisent de parler de Jésus. Et Pierre et Jean vont dire en acte 4, j'ai pas mis la citation, elle est là, je crois. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc ils étaient enthousiastes, ils ne pouvaient pas se taire. C'était plus fort qu'eux, il y avait ce feu en eux qui voulait s'exprimer. Et on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Bon, là, en se posant nous la question, nous, est-ce que ceux qui nous fréquentent, qui sont dans notre entourage, savent qu'on est chrétien? Est-ce qu'ils nous reconnaissent comme des chrétiens? À plus forte raison si vous allez en vacances qu'on ne vous connaît pas, mais est-ce que vous avez ce souci de partager votre foi? On doit faire une différence, on est quand même chrétien. Hein, ça ne veut pas dire qu'on vit quand même ce que vivent les autres, mais attention, il est bon qu'on nous reconnaisse comme des chrétiens, c'est important. Ensuite, il y a Paul et Silas. On les voit, ils sont en prison. Et au lieu de... Ils auraient pu se plaindre. Ils auraient pu dire, Seigneur, on te prie, là, tu nous gardes et comment tu as permis qu'on soit emprisonné. Donc, ils auraient pu se mettre à se plaindre. Mais on lit, effectivement, qu'en acte 16, vers le milieu, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Et on sait que, suite à cela... Le geôlier et sa famille va se convertir. Et donc, Paul et Silas avaient d'autant plus raison déjà de louer Dieu. Ils ne savaient pas encore que Dieu allait les utiliser pour les convertir toute une famille. Mais effectivement, ils avaient raison de louer Dieu dans leur situation. Donc, bel exemple d'enthousiasme, en fait. Donc, nous ne sommes pas toujours en train de nous plaindre. Vous savez, les conditions de vie, l'ambiance du travail, bon, tout ce qui arrive. Bon, il y a beaucoup de contrariétés, mais on a un Dieu qui est là, qui peut changer... Les circonstances qui peut changer les cœurs. D'accord. Et donc, alors pour résumer, un chrétien enthousiaste, alors donc, eh bien, ça doit se voir. On a un visage rayonnant, normalement. On voit tout de suite, vous voyez, il y a un sourire sur le visage entre quelqu'un qui n'est pas chrétien et un chrétien, il y a une différence. Ça doit se voir. Ça doit s'entendre. Dans les paroles, nous, on a des propos édifiants, on doit avoir des paroles quand même d'encouragement. On est là pour... on est une lumière dans un monde de ténèbres. On est... Le sel, on donne un goût à la vie, c'est important. Et ça doit attirer. Vous savez que c'est comme les aimants. Vous mettez deux polarités identiques, ça se repousse. Deux polarités contraires, ça s'attire. On est au contact de gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs. On doit les attirer. Et malheureusement, un constat qu'il faut faire, c'est que souvent, eh bien, on est un peu pris en flagrant délit. On se présente devant Dieu, notre roi des rois se présente avec un manque d'enthousiasme. Et quand on relit, vous connaissez l'histoire de Néhémie. Néhémie était les chansons à la cour du roi perse, Artaxerxès. C'est-à-dire qu'il avait même un poste privilégié. Il voyait très souvent le roi. Un jour, il reçoit la visite de son frère, Hanani, qui lui apporte des mauvaises nouvelles de Jérusalem. Ça attriste Néhémie. Il va être plusieurs jours à prier, à jeûner, à verser des larmes. Et le jour où il doit comparaître devant le roi, son visage est tout triste. Et le texte nous dit que Néhémie était dans la crainte d'approcher son roi. Et quand vous lisez les commentaires, vous apercevez que se présenter devant le roi avec un visage triste, c'était une offense, et ça pouvait être puni de mort. Et on retrouve la même référence dans le livre d'Esther, Esther qui doit se présenter devant le roi, et il est écrit, en Esther 42, donc, l'entrée de la porte du roi était interdite à toute personne revêtue d'un sac, c'est-à-dire qui est en train de jeûner, qui avait le visage donc, affligé et triste. Donc, est-ce que moi, qui ai toutes les raisons d'être enthousiaste, parfois, je ne suis pas coupable de me présenter devant Dieu le visage triste et abattu? Bien, bon, ça c'était, qu'est-ce que c'est l'enthousiasme? Maintenant, voyons un peu, qu'est-ce qui peut détruire notre enthousiasme? Parce que c'est important, parce que pourquoi justement, parfois, je perds mon enthousiasme? Et là, bon, il y a différentes raisons. Bon, j'en ai listé 6, là. Donc, vous voyez la liste des... Elle va apparaître là. Péché, sentiment de culpabilité, les complexes, l'apitoiement, nostalgie et poursuite du merveilleux. Bon. Je vais y revenir un peu sur chaque point. C'est quand même important pour que vous ayez quand même une idée bien précise et pour ne pas tomber dans le panneau finalement de se faire enlever notre enthousiasme. Bon, le péché, je dirais, c'est la raison la plus évidente. On sait que Dieu, qui est un Dieu saint, ne supporte pas l'odeur du péché. Il aime le pécheur, mais le péché, il ne peut pas sentir. Ce qui fait que quand vous commettez quelque chose que Dieu désapprouve, eh bien, tout de suite, il y a le Saint-Esprit qui est attristé, et il s'éloigne un peu de nous, comme s'il voulait changer d'air un peu, parce que l'odeur du péché ne supporte pas. Et de ce fait, eh bien, il prend le large, et nous, notre cœur, eh bien, on a perdu notre enthousiasme. par expérience, vous savez très bien, quand vous cédez à une tentation, vous regrettez, vous êtes triste, et je dirais qu'il y a ce sentiment de part de culpabilité, mais il y a surtout, bon, on s'en veut, et on a perdu notre joie, là. On a perdu. Du moins, tant qu'on n'est pas venu demander pardon à Dieu. Et je dirais que si on voulait illustrer donc cette attitude, il n'y a pas meilleur exemple que l'exemple de David. David, hein, nous connaissons donc cet homme, ami de Dieu et serviteur de Dieu, donc on se réjouit et on ne se lasse pas de lire les psaumes, mais David, vous savez qu'un jour, donc, il a cédé, il a commis l'adultère, et non seulement il a commis l'adultère, mais après, hein, il a même projeté, hein, il a fait mourir donc, le mari de Bathsheba, donc victime, coupable de meurtre, en fait. Et David, donc, c'est quand même épouvantable ce qu'il a fait, et un jour, donc, Dieu lui envoie le prophète Nathan, et David va réaliser ce qu'il a fait. Et donc, vous connaissez bien ce psaume 51 où il va exprimer précisément, ben je vous invite à prendre donc le psaume 51, on va lire quelques versets qui vont parler mieux que moi de ce que je veux essayer de vous expliquer. Donc, d'abord, David, conscient de qu'il a mal fait, il va confesser, il reconnaît sa faute. Vous voyez, il est honnête. Et au verset 3-6, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Donc il y a cette confession d'un David qui a perdu son enthousiasme. Il va demander à Dieu, donc au verset 10, un peu plus loin, donc, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Il se sent brisé, sa joie est partie, il se sent loin de Dieu et de son Saint-Esprit. Et donc il va dire au verset 13, « ne me rejette pas loin de ta face. » Il se sent loin de Dieu, vous voyez. « Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Un esprit de bonne volonté. Voilà, l'enthousiasme, c'est ça, un esprit de bonne volonté. Et... ensuite, eh bien, on va voir hein, les conséquences là, donc, de cette. Hein, quand il a retrouvé, il va mettre au verset 15 J'enseignerai tes voix ceux qui te les transgressent, ma langue célébrera ta miséricorde, Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche publiera ta louange. Quand on peut publier les louanges de Dieu, ça veut dire qu'on a retrouvé son enthousiasme. Et si vous prenez le psaume 32, justement, c'est par le même David, mais justement, hein, ça s'intitule Le bonheur du pécheur pardonné, donc c'est après. Il a écrit ce psaume-là après. Et là, on retrouve un David enthousiaste. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et au verset 3, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Donc il n'y avait plus d'enthousiasme, bien sûr. Il poursuit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » Et donc, le résultat, c'est au verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous qui êtes droit de cœur. Point d'exclamation. L'enthousiasme, il sait s'exclamer. D'accord. Bon. Donc, on a compris, tant qu'on vit dans le péché et qu'on n'est pas en paix avec Dieu, on ne peut plus retrouver cet enthousiasme. Mais heureusement, l'apôtre Jean écrit dans sa première épître, 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Bon, voilà une bonne nouvelle. Ne restons pas avec un péché pour lequel on n'a pas demandé pardon. Ensuite, la deuxième cause qui nous fait perdre, donc, c'est pas seulement le péché, c'est le sentiment de culpabilité. Parce que vous avez demandé pardon à Dieu, vous êtes venu au pied de la croix de Jésus, vous avez reçu le pardon, mais en fait, vous êtes comme beaucoup, c'est possible ça. Ils repartent, mais ils ont ce sentiment de culpabilité, comme si Dieu ne les avait pas pardonnés. Et pourtant, Dieu, dans sa parole, il est clair, vous voyez. Je vous ai donné trois citations là. Hébreux 8, 12, Hébreux 10, 17, et qui reprennent Jérémie 31, 3. Et Dieu déclare, quand je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Hein? C'est non seulement la poubelle, mais la poubelle, elle est vidée en plus. Bon, Dieu, il ne garde rien, c'est sûr. Mais il y a des chrétiens, c'est des chrétiens brouettes. Ils viennent, vous savez, ils déposent le paquet au pied de la croix, puis ils repartent, ils le remettent dans la brouette. Hein. Et partout où ils vont, ils transportent, si vous voulez, avec eux, ce sentiment de culpabilité. Jésus, il a pardonné, il a pu être coupable. Hein. Mais ça, Des fois, on pourrait se laisser piéger. D'autant que, vous savez, Satan, il garde les archives. Lui. Et lui, il voudrait nous faire croire que non, Dieu t'a pas pardonné, et il nous remet en mémoire des choses qu'on a faites. Hein. Bon, mais Dieu, pour lui, s'est effacé, terminé. Donc, eh bien, contemplons pas, je dirais, la poubelle, là, on a tout est jeté, là. Et puis, bon, allons, hein. Après, si on a un Dieu qui est bon, hein, il a fait le ménage, réjouissons-nous, et regardons plutôt hein, donc, hein, Jésus, là, qui nous donne son pardon. Romains 8, 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est important. Il n'y a plus de condamnation. Et je vous rappelle aussi 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est important. Donc, non seulement on reçoit le pardon de Dieu, mais on ne garde pas un sentiment de culpabilité. Okay, bon. Ensuite, ce qui peut détruire notre enthousiasme, ce sont des complexes. Et quand je dis complexe, c'est par rapport à qui on est, c'est souvent même par rapport au physique, enfin par rapport à qui je suis. Or, je suis une créature merveilleuse, il ne faut pas oublier. Hein. Psaume 139, on connaît. Hein. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, je suis une créature merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Si je suis une créature merveilleuse aux yeux de Dieu, ben, de quoi je vais me plaindre? Je suis comme Dieu m'a voulu. Eh oui. Donc, je n'ai pas à avoir ces complexes, la façon dont les autres me regardent. Vous savez, parce que ça génère quoi, là, les complexes? Hein, une forme de timidité, on n'ose pas, qu'est-ce qu'ils vont penser? Hein, qu'est-ce qu'on va dire de moi et tout. Bon, ça, c'est ça le complexé, hein, il n'ose pas. D'accord. Et c'est oublié, nous en tant que chrétiens, je vous rappelle hein, 2 Timothée 1, 6 à 8, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis en nous, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Jésus dira, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. On n'a pas à avoir honte d'être chrétien, on doit être fier. Il faut être fier. Et là, si je veux vous illustrer, bon, hein, là, c'est évident, l'illustration, vous connaissez tous Nick Vujicic, hein, né sans bras ni jambes. Il aurait pu avoir des complexes, hein, mais hein, lui, il était capable de taper dans un ballon, il faisait de la plongée, hein, il a même eu des enfants, enfin, bon, je passe. Bel exemple d'enthousiasme, j'en dis pas plus, mais enfin, bon, on pourrait prendre d'autres exemples, mais là, pour moi, c'est tellement parlant. Voilà quelqu'un qui aurait pu avoir des complexes, il n'en a pas eu. Quatrième raison, c'est l'apitoiement. Et c'est dans le prolongement des complexes. Parce que non seulement il ne faut pas que j'ai de complexes, mais il ne faut pas que je m'apitoie sur moi. C'est-à-dire ne pas centrer tout ce qui se passe sur ma petite personne. Et ça encore, c'est très humain, ça. C'est la nature charnelle. Hein? Parce que si je centre tout sur moi, ça veut dire que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, il n'y a plus rien qui va. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il faudrait presque... Ils ont à sortir... Eh bien, ils aimeraient qu'il fasse beau, il faudrait que la météo les consulte, mais en chance, il pleut. Ouais. On va se plaindre. Hein. Ou c'est l'inverse. On ne voulait pas, il fait trop chaud. Ah bon. Moi, j'ai connu des gens, chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose, c'était la catastrophe. Vous vous rendez compte, ce qui m'arrive encore, j'ai assez donné. Enfin, c'est comme ça. Non, mais. Hein. On a l'impression que le monde tourne autour d'eux, et chaque fois, c'est catastrophe. Je dirais que si en tant que chrétien on se comporte comme ça, là on se comporte en chrétien victime. Et ne soyons pas des chrétiens victimes, surtout pas. Hein. On regarde à Jésus, on regarde à ce qu'il a fait, à ce que Dieu hein, veut réaliser à travers de nous, hein, à travers des projets de Dieu et tout. Bon. Heureusement que Paul n'était pas quelqu'un à s'apitoyer. Hein. Relisez avec moi, il faut quand même que je vous fasse lire quelques passages dans la Bible quand même. On ne va pas vous faire tout le travail. Hein. Je vous cite les versets, je les affiche. Mais allez, 2 Corinthiens 11. Bon, vous connaissez ce passage, mais c'est tellement percutant quand on lit tout ce que Paul a pu subir, faire face. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Sont-ils ministres de Dieu? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que 40 coups, en général, on y laissait la vie. Bon. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous avez une situation en péril, en péril, en péril. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Il ne dit pas tout. Hein. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je sois faible, qui ne vient à tomber, que je ne brûle. Et c'est ce même Paul qui, emprisonné, dira « Soyez toujours dans la joie ». Je le répète, soyez toujours joyeux. Heureusement, Paul n'a pas, ne s'est jamais apitoyé dans ces situations par rapport à lui. Quand il est en prison, il dit aux Philippiens, il y en a qui prêchent Christ par intérêt, mais ça m'importe du moment que Christ est annoncé. C'était le souci de Paul. Que, dans toute situation, il essayait d'en profiter pour annoncer Christ. Ça nous interpelle. Et alors, cinquième raison, ça peut être la nostalgie et la routine. Bon, en général, quand on fait une démarche, hein, on découvre l'amour de Dieu. On découvre qui est Jésus. On est nouveau, on passe par les eaux du baptême. Bon, en général, les premières années de vie chrétienne, c'est quelque chose de merveilleux. Bon, c'est même, chaque fois, c'est quelque chose, un changement de vie. Mais ça ne dure pas, hélas. Ce qu'on vit, après, il y a le quotidien, il y a les problèmes, bon, il y a une habitude qui s'installe. Enfin, bon, la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Bon, il y a des nuages qui s'amoncellent. Bon, c'est vrai. Et il arrive un moment... Eh bien, quand on y pense, on regrette les premières années. On était tout feu, tout flamme. Bon, je parle pour moi, mais je suis sûr que hein, vous avez tous vécu la même chose. Et ça, pourtant, c'est pas une attitude qu'on devrait avoir, parce que Dieu veut toujours qu'on regarde de l'avant. Dieu, il veut, hein, il veut pas qu'on regarde en arrière. Il y a toujours cette image là, hein, que j'ai illustrée là, de Jésus qui dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est impropre au royaume de Dieu. Il est impropre, pourquoi ? Parce que le laboureur à l'époque, pourquoi ne pas regarder derrière ? Il mettait tout son poids sur la charrue et il fallait tracer le sillon droit. C'est pour ça qu'il y a cette image, il faut regarder devant soi. On avance. Et nous, c'est pareil, nous on laboure et on sème devant nous. Et pour Dieu, donc, le passé est passé et Dieu, c'est quelqu'un qui il va faire... Eh bien, du nouveau tous les jours. Il est vivant. Dieu est un Dieu vivant. Il ne se laisse pas enfermer, je dirais, dans des schémas, des stéréotypes, des rituels à suivre, des formules, des protocoles. Vous savez, il y en a... un peu comme, vous savez, il y a des prétendus guérisseurs. Bon, ils vont vous guérir. Alors, il faut qu'ils récitent une formule. Il faut qu'ils fassent ceci. Attendez, Dieu, non. Dieu, il ne procède pas comme ça. Vous parlez, vous avez autorité, c'est votre cœur qui parle. Il n'y a pas, faut faire ceci, faut faire cela. Non, mais on tombe à une religion avec tous ces rituels. Dieu, il est vivant, chaque jour est un jour nouveau pour lui. Il agit par son Saint-Esprit, et il faut être à l'écoute. On a besoin, on demande. Bon, et on attend que Dieu réponde, on attend que Dieu agisse. Ça, c'est important. Et Dieu veut faire de l'inédit. Inédit, ça n'a pas été écrit. Jamais vu. De l'inouï, ça n'a jamais été entendu. D'accord ? Il veut nous surprendre. Il est écrit en 1 Corinthiens 2,9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Paul parle de la sagesse de Dieu, hein, qui est mystérieuse et cachée, mais qu'il veut révéler. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Donc, si on a une attitude un peu, je dirais, sclérosée, qui n'est pas ouverte à l'avenir et au changement, il n'y a pas beaucoup de place pour l'enthousiasme, là. Ah oui. Et enfin, alors, dernier point, la poursuite du merveilleux. Là, ça peut paraître paradoxal, en fait. Parce que, je vous dis qu'il faut s'attendre à un Dieu qui fait des choses étonnantes. Et je vous dis, attention, méfiez-vous. Comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, il ne faut pas perdre le sens des réalités. Parce que vous avez des chrétiens, je dirais, qui vivent leur foi en fonction des émotions, de ce qu'ils ressentent. On veut toujours du spectaculaire, on veut toujours des expériences étonnantes. On va courir d'un lieu à un autre, écouter tel homme de Dieu, qu'à soi-disant tel ministère, tel prophète, on court partout. Et c'est vrai qu'il nous arrive, et c'est une bonne chose, et on devrait tous vivre ces choses. Des moments où on sent la présence de Dieu, c'est presque tangible. Il y a des moments où on sent vraiment une visitation de Dieu, et ça fait du bien. Il y a des moments, c'est vrai, c'est presque physique. On a besoin, parfois. Mais attention, c'est pas parce que je ne sens rien que Dieu n'est pas présent. C'est pas parce que je vois pas que Dieu n'agit pas. Attention. On n'est pas dans le rêve, là. Restons dans la réalité. Mais Dieu, il agit, mais c'est pas toujours du spectaculaire, c'est pas toujours du visible, non plus. La foi, Hébreu 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon. Donc c'est pas ce que je sens, mais c'est ce que je sais. D'accord ? C'est pas mes émotions, c'est mes convictions. S'il y a des émotions en plus, c'est bien, mais attention. Hein. D'abord les convictions. Et il ne faut pas mesurer, je dirais, notre niveau de foi, eh bien, au niveau de nos émotions. Sinon, vous allez être des chrétiens, j'appelle des chrétiens baudruches, moi. Vous allez être vite gonflés, hein, bon, par vos expériences que vous vivez dans un certain contexte. La baudruche, elle est bien gonflée. Et après, ça, il ne faut pas grand-chose. Hein. Petit coup d'aiguille, là. Hein. Petite contrariété, une réflexion bon, qui vous déplaît un peu, qui vous blesse, un environnement un peu hostile, et puis hop, pssst, ça y est, ça se dégonfle. Pas grand-chose. Eh oui. C'est comme si, bon, moi, j'essaie d'être enthousiaste ce matin devant vous, là, et puis je rentre, et puis Colette, elle fait une réflexion, puis hop, voilà. Il y a des chrétiens comme ça, hein, le mari, là, voilà. Et non, bon, on ne cherche pas à toujours être flatté dans le sens du poil, c'est pas ça, non. Chrétien baudruche, nous, on doit être des chrétiens gonflés, pas par l'ambiance, l'air ambiant du monde, c'est par l'esprit, le souffle de l'esprit. Quand on est gonflé par le souffle de l'esprit, là, je peux vous dire, on peut être cabossé, on peut aller dans des bons endroits, hein, même s'il y a des aspérités et tout, on va rebondir, on ne sera pas des pneus qui vont pas se laisser dégonfler. Non, c'est un problème. Hein. Oui, oui. Donc c'est important, ça. D'accord. Et l'enthousiasme, un enthousiaste ne se laisse jamais mettre à plat. En fait. Mais non. Vous connaissez la pression des pneus, ça se mesure en barre, les pressions des pneus. Hein. Bon, hein. Et une fois, j'avais fait un message, j'étais fatigué, il fallait savoir rebondir. Hein. La pression, quand vous venez donc, le matin, là où vous branchez sur la parole de Dieu, le présent de Dieu, hein, Saint-Esprit fait remonter la pression en vous, alors, hein, un bar, deux bars, trois bars, puis il y a Satan qui est à côté de vous, là, il voudrait vous embêter, puis, hein, il va 9 bars, 10 bars, 11 bars, 11 bars, il se sauve. 11 bars. Bon, j'avais déjà dit, mais bon, on voit bien, il faut bien sourire un peu. Hein, donc là, le chrétien, il est gonflé 11 bars. Bon. Eh oui. Bon, donc, vous voyez, on a eu beaucoup de raisons que j'ai exposées qui pourraient détruire notre enthousiasme. Bon, il y en a d'autres, on pourrait encore. Les inquiétudes, les soucis, les préoccupations du monde. Ça, c'est déjà pas mal. Je termine alors. Je termine donc, en rappelant qu'on est appelé à être des chrétiens enthousiastes. Là, vous avez compris. C'est donc une affaire de cœur. Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Hein, et surtout, donc, qu'on ne soit pas des chrétiens, ni des chrétiens brouettes, ni des chrétiens victimes, ni des chrétiens baudruches. Trois mots, hein. Pas brouettes, pas de victimes. Bon. Être enthousiaste, donc, c'est vivre avec passion cette relation qu'on a avec Dieu, avec Jésus. Hein, c'est quand même une vie, bon, on dit toujours, c'est une passion, vivre avec Jésus, c'est assez grand amour, en fait, hein, c'est sûr. Et chaque jour, on s'attend toujours à quelque chose de nouveau. On ne va pas s'enfermer dans des habitudes. Ça, c'est pas bon. Et surtout, c'est une vie de liberté, mais une vie de victoire aussi. Il faut le redire aussi, parce que, hein, là encore, on parle de vie. Il y a victoire et victoire. Nous, c'est une victoire, effectivement, sur l'ennemi. Et une victoire, des fois, sur les circonstances. On se positionne avec cette puissance, et cette force que Saint-Esprit met en nous. Donc, est-ce que j'ai le cœur enflammé et brûlant d'amour pour Jésus, pour Dieu. On se pose la question, parce que Jésus, il a dit, quand il parle de son retour, quand il donne les signes, en Matthieu 24, on connaît, hein, il y aura donc la séduction des guerres et tout ça. Bon. Et il termine, après avoir énuméré tous les signes, hein, qui devraient nous mettre en garde contre le fait qu'on est peut-être dans les temps où il va revenir, il nous dit en Matthieu 24, 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'iniquité s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Il y a comme une corrélation. Plus ça va mal, plus le monde devient inique, violent, méchant, plus les gens veulent se protéger. Et quand on ferme un peu son cœur, et l'amour va se refroidir. Ça, c'est un danger. Et ça, c'est pas ce que Jésus veut. Jésus reprochera, rappelez-vous Apocalypse, à l'église, donc Apocalypse 3,16, je crois que c'est l'Odyssée, je crois. Je te vomirai de ma bouche. Tu n'es pas brûlant, vaut mieux que tu sois froid ou brûlant, mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Jésus n'aime pas les tièdes. Donc, ne soyons pas des gens résignés, passifs, avec le cœur qui s'endurcit, non. Essayons de garder cette flamme, ce feu en nous. Et donc que Dieu nous garde, effectivement, de garder dans la routine. Et cette fois qu'on l'a, faut la vivre. Il faut la vivre de façon, je dis, passionnée. On doit être des passionnés. Voilà. J'ai une équipe de passionnés. Eh oui. Et une équipe de passionnés qui s'entendent bien, eh bien, ça gagne la victoire. Eh oui, c'est sûr, c'est normal. Eh oui. Et puis alors, je vais terminer quand même, j'ai fini, mais on a entendu. Donc Christiane, eh bien, si vous avez... Êtes passion dans le cœur, enthousiaste, vous êtes bouillonnant, vous demandez qu'à l'exprimer, ben, prenez contact avec Christiane. Je suis volontaire pour aider. Je serai là samedi, je participerai, je montrerai à tous ceux qui vont faire des manifestations de joie, je vais m'inclure, je vais être d'un même cœur.
Oui.
Merci Didier. Parce que vous savez, si vous êtes, écoutez, il n'y a pas de secret, si vous êtes convaincu, vous deviendrez convaincant.
Amen.
Eh oui. Et qui sait si à travers vous, Dieu ne va pas se révéler. Beaucoup de cœurs cherchent Dieu. Mais c'est peut-être à travers vous. Peut-être que vous ne direz rien. Vous allez montrer. Bon, des fois, il suffit. Bon, je remercie la sœur un peu ce matin. Bon, pendant qu'on louait, là. Vous savez, il y a les drapeaux. Là. Merci parce que ça fait de l'air. Quand on a chaud, ça fait, c'est bien. Il faudrait qu'il y en ait plus, là. Mais c'est une façon, voyez, visible de montrer. On dit rien, mais on monte. On est joyeux. Bon, et ben, c'est pour ça que je me dis un jour, les voisins, ils vont entendre qu'on est joyeux là. Il y en a qui vont descendre, comme cette dame qui passe. Entrez, il faut le montrer quand même. Amen. Bon, on va prier. Priez Dieu quand même que. Bon, c'est pas des choses extraordinaires, mais ça fait du bien. Il faut l'entendre, il faut le réentendre. On sait, mais. Bon. Pardon, Seigneur. Seigneur, bien merci encore pour cette conscience que tu nous mets dans le cœur, que tu veux, Seigneur, que cette foi que tu as mis, cet amour que tu as répandu, Seigneur. Toutes les raisons que nous avons dans cette relation avec toi, toutes les raisons que nous avons d'être des chrétiens enthousiastes, Seigneur, nous les avons. Et parfois nous les vivons, mais parfois aussi, Seigneur, eh bien, malheureusement, nous les mettons entre parenthèses, on se laisse... prendre par un contexte difficile, par des problèmes, Seigneur, par de la fatigue, enfin, il y a des tas de raisons qui font que notre enthousiasme, eh bien, il en veilleux, Seigneur. Et puis, bon, c'est pas éteint, mais ça jaillit pas, Seigneur. Ça brille pas. Pardon, Seigneur. Et ce matin, eh bien, on veut te prier que, eh bien, cette vie de l'Esprit qui est en nous, qu'elle puisse, eh bien, se manifester, Seigneur, de manière beaucoup plus éclatante, Seigneur. À ta gloire, Seigneur. C'est pas l'homme, c'est pas la femme, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Qui doit être vu à travers nous, Seigneur. C'est ce qu'on désire. Et en ce temps de vacances, plus que jamais, Seigneur, eh bien que dans tous ces contacts qu'on peut avoir, eh bien qu'on puisse avoir l'occasion de montrer que dans un monde qui va mal, eh bien on sait être quand même, on fait partie des gens les plus heureux de la Terre. On a tout pour être heureux, c'est-à-dire. Et il faut le dire et il faut le montrer, c'est-à-dire. Merci de nous aider, que ton Saint-Esprit encore, eh bien, vienne ranimer cette passion en nous, Seigneur. C'est notre désir. Que cette passion soit vraiment, eh bien, une passion qui nous brûle du matin au soir, Seigneur. C'est ce que nous voulons, c'est ce que je te demande pour tous les frères et sœurs qui sont là, pour ceux qui sont déjà en vacances, Seigneur, pour toute cette Église, ce corps que nous formons, Seigneur. Et merci encore, Seigneur, de faire ton œuvre dans le cœur de chacun. Merci au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.